Clérambeau, quatrième partie. En dépit de ses efforts pour agir bravement et laisser faire aux dieux, il était heureux que Clérambeau ne pût voir toutes les suites de sa pensée. Sa pensée aspirait au règne de la paix, et très probablement, elle contribuerait, pour une part qui n'était pas infime, au déchaînement des luttes sociales. Comme tout vrai pacifisme, si paradoxal que ce semble, car il est une condamnation du présent. Mais Clérambeau ne se doutait pas des forces redoutables qui, un jour, se réclameraient de lui. Par un effet opposé, son esprit conquérait parmi ces jeunes gens plus d'harmonie en réagissant contre leur violence. Il sentait d'autant plus le prix de la vie qu'ils en faisaient si bon marché. En cela, il ne se distinguait pas beaucoup des nationalistes qu'il voulait combattre. Bien peu aimait la vie plus que l'idée. C'est, dit-on, une grandeur de l'homme. Tout de même, Clérambeau fut bien aise de rencontrer un homme qui aimait la vie pour la vie. Un camarade de Moreau, grand blessé comme lui, Gillot. Dans le civil, jeune ouvrier dessinateur pour industrie. Un obus l'avait lardé, du haut en bas. Il avait une jambe de moins et le tympan brisé. Mais Gillot réagissait plus énergiquement contre le sort que Moreau. Ce petit homme brun avait des yeux vifs, où brûlait malgré tout une flamme de gaieté. D'accord avec Moreau pour juger le non-sens de la guerre et le crime de la société, il avait vu les mêmes faits, les mêmes hommes, mais non avec les mêmes yeux. Et les deux jeunes gens étaient souvent en discussion. Oui, disait Gillot un jour que Moreau venait de raconter à Clérambeau un souvenir lugubre de la vie des tranchées. C'était bien comme ça. Seulement, il y a quelque chose de pire, c'est que ça ne nous faisait rien. Rien, aucun effet. Moreau protestait, indigné. Toi, peut-être, et si tu veux, deux ou trois par-ci par-là. Mais les autres, on finissait par ne plus le remarquer. Il continuait pour arrêter une protestation nouvelle. Je ne dis pas ça, mon petit, pour nous faire valoir. Il n'y a pas de quoi. Je dis parce que ça est. Voyez-vous, s'adressant à Clérambeau, ceux qui reviennent de là et qui le mettent dans des livres, ils disent bien ce qu'ils sentent, mais ils sentent beaucoup plus que le commun des mortels, parce qu'ils sont des artistes. Tous les écorchent. Nous autres, on est tannés. C'est même le plus terrible à cette heure quand j'y pense. Quand vous lisez ici une de ces histoires qui vous font dresser les cheveux ou vous donnent la nausée, il vous manque le bouquet. Des gars qui, plantés devant, fument leur pipe, blaguent ou pensent à autre chose. Il faut bien, sans ça on crèverait. Tout de même, l'animal humain a une facilité à s'adapter à tout. Il trouverait moyen de prospérer au fond d'un dépotoir. Vrai, c'est à dégoûter de soi. J'ai été ainsi, moi qui vous parle. Il ne faut pas vous figurer que je passais mon temps comme le petit fée, ici, à méditer sur mon crâne. Je trouvais, comme tout le monde, ce qu'on faisait idiot. Mais puisque toute la vie est idiote, n'est-ce pas? On faisait ce qu'il y avait à faire, pour autant qu'il faudrait, en attendant la fin. La fin? Une fin ou l'autre? La mienne, celle de ma peau, ou bien celle de la guerre? C'est toujours une fin. En attendant, on vit. On mange, on dort, on chie. Pardon, faut dire les choses. Et le fond de tout ça, monsieur, voulez-vous le savoir? Eh bien, c'est qu'on n'aime pas la vie. On ne l'aime pas assez. Vous avez bien raison de le dire dans un de vos articles. Elle est fameuse, la vie. Seulement, ils ne sont pas beaucoup, ceux qui ont l'air de s'en douter à présent. Pas beaucoup de vivants. Ce sont plutôt des dormants, en attendant le grand somme. Ils se disent, comme ça on est tous couchés, on n'a plus à se déranger. Non, on ne l'aime pas assez, la vie. On n'apprend pas à l'aimer. On fait tout ce qu'on peut pour vous en dégoûter. Depuis qu'on est petit, on nous chante la mort, la beauté de la mort, ou bien ceux qui sont morts. L'histoire, le catéchisme, mourir pour la patrie, ou bien c'est la calotte, ou bien les patriotes. Et puis, la vie embête, cette vie d'aujourd'hui. On dirait qu'on s'arrange pour vous la rendre la plus emmerdante possible. Plus d'initiative, tout est mécanisé. Avec ça, aucun ordre. On ne fait plus de travail, on fait des bouts de travail. On ne sait pas avec quoi ça s'agence. Et le plus souvent, ça ne s'agence pas. C'est un sacré gâchis, dont on ne profite même pas. On est comme mis en cac, empilé au hasard. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi on vit. On vit, on n'avance pas. Il y a, dans la nuit des temps, nos grands-pères qui, dit-on, nous ont pris la Bastille. Alors il paraîtrait, d'après ces farceurs-là, ceux qui tiennent le manche, qu'il n'y aurait plus pour nous rien à faire aujourd'hui, que c'est le paradis. Est-ce que ce n'est pas écrit sur tous nos monuments? On sent bien que ce n'est pas vrai, qu'il y a là-bas devant nous un autre orage qui chauffe, une autre révolution. Mais celle qui a eu lieu a si mal réussi, et tout est si peu clair. Non, on n'a pas confiance, on ne voit pas son chemin, on n'a personne qui nous montre par-dessus toutes ces mares à crapauds quelque chose de haut, quelque chose de beau. Ils font bien tout ce qu'ils peuvent maintenant pour nous emballer. Droit, justice, liberté. Mais le lard est éventé. On peut mourir pour ça. Mourir, on ne refuse jamais. Mais vivre, c'est autre chose. Et maintenant ? Demanda Clérambeau. Ah, maintenant. Maintenant qu'on ne peut plus revenir en arrière, je pense, si c'était à recommencer. Quand avez-vous changé ? C'est bien le plus curieux. Sitôt que j'étais blessée, je n'avais pas sorti une jambe de la vie que j'aurais voulu l'y rentrer. Qu'elle y était donc bien, et on ne s'en doutait pas. Imbécile, va, crétin. Tenez, je me vois encore, quand j'ai repris connaissance sur un champ ravagé, encore plus étripé que les corps qui gisaient, enchevêtrés, tête bêche, comme un jeu de jonchée. La terre qui poissait, elle-même, semblait saigner. Nuit complète. Je ne sentais rien, d'abord. Il gelait. J'étais collée. Quel était le morceau qui me manquait, au juste? Je n'étais pas pressée de faire l'inventaire. Je me méfiais de ce qui viendrait. Je ne voulais pas bouger. Le sûr, c'est que je vivais. Peut-être plus qu'un moment. Attention à ne pas le perdre. Et je vis dans le ciel une petite fusée. Ce qu'elle signifiait, je ne m'en occupais plus. Mais la courbe, la tige et la fleur de feu, je ne peux pas vous dire comme j'ai trouvé ça beau. Je l'accueillais de l'œil. Je me suis revue tout enfant, près de la Samaritaine, un soir de feu d'artifice sur la Seine. Je regardais cet enfant comme si c'était un autre, qui me faisait amusement et pitié. Et ensuite, j'ai pensé que c'était pourtant bon d'être planté dans la vie et de pousser. Et d'avoir quelque chose, quelqu'un, n'importe quoi, à aimer. Tiens, rien que cette fusée. Et puis la douleur est venue. Je me suis mis à hurler. Et je repiquais la tête au fond du trou. Après, c'était l'ambulance. Il ne faisait plus bon vivre. Le mal était un chien qui vous rongeait les moelles. Autant rester dans le trou. Et pourtant, même alors, alors surtout, quel paradis ça vous semblait de vivre comme autrefois, de vivre tout bonnement, de vivre sans douleur, comme on vit tous les jours. Et on ne le remarque pas. Sans douleur, et vivre. Mais c'est un rêve. Lorsqu'elle s'arrêtait, une minute de paix, à sentir seulement le goût de l'air sur sa langue et le corps si léger après qu'on a souffert. Christi. Et toute la vie avant était ainsi, et on ne s'en doutait pas. Bon Dieu, qu'on est bête d'attendre pour la comprendre, que l'on en soit privé. Et quand on l'aime enfin, et qu'on lui demande pardon de n'avoir pas su l'apprécier, elle vous répond « trop tard. Il n'est jamais trop tard, dit Clérambeau. Clérambeau, quatrième partie, 7. Gillot ne demandait qu'à le croire. Cet ouvrier instruit était bien mieux armé pour la lutte que Moreau, et même que Clérambeau. Rien ne l'abattait longtemps. On tombe, on se relève, on prendra sa revanche. Au fond, il pensait des obstacles qui barrent l'avenir, on les aura. Et il était prêt à marcher, sur le nid que pâte qui lui restait, contre eux, tant qu'on voudrait. Le plus tôt serait le mieux, car lui aussi était, comme les autres, un dévot de la Révolution. Il trouvait moyen de l'accommoder avec son optimisme, qui la voyait d'avance réaliser en douceur. Il était sans rancune. Pourtant, il ne fallait pas s'y fier. Ces natures populaires réservent de telles surprises. Elles sont si malléables et prêtes à changer. Clérambeau l'entendit, avec un camarade du front, l'agneau, venu en permission, parler de tout chambardé quand les poilus rentreraient, après la guerre finie, et peut-être même avant. L'homme du peuple de France, qui est souvent charmant, vif, alerte, courant au-devant de votre pensée, avant que vous ayez eu le temps de l'exprimer complètement, grand Dieu, comme il oublie. Ce qu'on a dit, ce qu'il a dit, ce qu'il a vu, ce qu'il a cru et ce qu'il a voulu. Mais il est toujours sûr de ce qu'il veut, de ce qu'il dit, de ce qu'il voit, de ce qu'il croit. Gillot, avec l'agneau, développait tranquillement des arguments contraires à ceux qu'il défendait, la veille avec Clérambeau. Et ce n'était pas seulement ses idées qui changeaient, mais c'était, eût-on dit, son tempérament. Le matin, rien d'assez violent pour son besoin d'action et de démolition. Le soir, il ne rêvait plus que d'un petit commerce, gagner gros, manger bien, élever sa nichée et se foutre du reste. Et s'ils se disaient tous sincèrement internationalistes, il en était bien peu parmi ces poilus qui n'eussent conservé les vieux préjugés français de supériorité de race, pas méchantes, mais gouailleuses et solidement ancrées à l'égard du reste du monde, ennemis et alliés, et, dans leur pays même, de ceux des autres provinces, ou, s'ils étaient provinciaux, de Paris. Point Géniard, franc du collier, toujours prêts à marcher, comme Gillot, capable certes de faire une révolution, et puis de la défaire, et puis de la refaire, et puis l'enlaire, d'envoyer tout par terre et de s'en remettre au gré du premier aventurier. Ils ne le savent que trop bien, les renards de la politique. La meilleure tactique pour tuer les révolutions est, quand l'heure est venue, de la laisser passer en amusant les gens. L'heure semblait bien proche. Un an avant la fin de la guerre, il y eut dans les deux camps quelques mois, quelques semaines, où l'infinie patience des peuples martyrisés sembla sur le point de craquer, et où une grande clameur allait rugir, assez. Pour la première fois, s'étendait parmi eux l'impression d'une sanglante duperie. Comment ne pas comprendre l'indignation d'hommes du peuple qui constataient le jeu effréné des milliards dans la guerre, alors qu'avant la guerre, leur maître lésinait avec quelques 100 000 francs pour les œuvres sociales. Plus que tous les discours, certains chiffres avaient le don de les exaspérer. On avait fait le calcul que la guerre dépensait environ 75 000 francs pour tuer un homme. Et pour la même somme qui faisait 10 millions de morts, on aurait pu faire 10 millions de rentiers. Les plus bornés prenaient conscience de l'énormité de la richesse terrestre et de son emploi monstrueux. Gaspillage éhonté pour un but illusoire. Et la pire abjection, d'un bout de l'Europe à l'autre, cette vermine que la mort engraisse, les profiteurs de la guerre, les détrousseurs de cadavres. Ah, pensaient ces jeunes gens, qu'on ne nous parle plus de la lutte des démocraties contre les autocraties, car c'est la même crasse dans toutes ces cracies. Et dans toutes, la guerre a désigné à la vengeance des peuples les classes dirigeantes, l'indigne bourgeoisie, politique, financière, intellectuelle, qui, en un seul siècle de toute puissance, a accumulé sur le monde plus d'exactions, de crimes, de ruines et de folies qu'en 10 siècles ces fléaux, les rois et les églises. Aussi, quand retentit au loin, dans la forêt, la hache de Lénine et Trotsky, les bûcherons héroïques, bien des cœurs opprimés frissonnèrent d'espoir. Et dans chaque pays, plus d'un prépara sa cognée. Quant aux classes dirigeantes, d'un bout de l'Europe à l'autre, dans les deux camps ennemis, elles se hérissèrent contre le danger commun. Il n'était pas besoin de négociations entre elles pour s'entendre là-dessus. Leur instinct avait parlé. La presse des bourgeoisies ennemies de l'Allemagne donnait tacitement carte blanche au Kaiser pour étrangler la liberté russe qui menaçait la justice sociale, dont toutes également vivaient. Dans l'absurdité de leur haine, elles cachaient mal leur joie de voir le militarisme prussien, le monstre qui devait ensuite se retourner contre elles, les venger de ces grands révoltés. Et, naturellement, elles attisaient ainsi, dans les masses qui souffraient et chez le petit nombre d'esprits indépendants, l'admiration pour ceux qui tenaient tête à l'univers, pour les excommunier. La chaudière bouillait. Pour l'arrêter, les gouvernements d'Europe l'avaient hermétiquement bouchée et s'asseyaient dessus. La stupide bourgeoisie dirigeante, en entretenant le feu, s'étonnait des grondements sinistres. Elle attribuait la révolte des éléments au mauvais esprit de quelques francs-parleurs, à de mystérieuses intrigues, à l'ordre l'ennemi aux pacifistes. Et elle ne voyait point, ce qu'un enfant aurait vu, que la première chose à faire pour empêcher l'explosion était d'éteindre le feu. Le dieu de tous les pouvoirs, quelle que fût leur étiquette, empires ou républiques, était le poing, la force, ganté, masqué, fardé, mais dur et sûr de soi. Et elle devenait aussi, par la loi du ressac, la foi des opprimés. C'était une lutte sourde entre deux pressions contraires. Où le métal était usé, en Russie tout d'abord, la chaudière avait sauté. Où le couvercle tenait moins, dans les pays neutres, la brûlante vapeur s'échappait en sifflant. Un calme trompeur régnait dans les pays en guerre, sur qui pesait l'oppression. Aux oppresseurs, ce calme semblait donner raison. Armés contre l'ennemi, ils ne l'étaient pas moins contre leurs concitoyens. La machine de guerre est toujours à deux fins, par devant, par derrière. Le couvercle ferme bien, fait du meilleur acier et vissé à écrou. Il ne sauterait pas. Non. Gare que tout éclate d'un coup. Comprimé comme les autres, Clérambeau voyait autour de lui la révolte s'amasser. Il la comprenait, il la croyait même fatale. Mais ce n'était pas une raison pour qu'il l'aimât. Il ne pratiquait pas la mort fatie. Comprendre suffit. Le tyran n'a pas droit à l'amour. Ces jeunes gens ne lui marchandaient pas le leur. Et il s'étonnait que Clérambeau ne montrât pas plus de chaleur pour la nouvelle idole qui leur venait du Nord, la dictature du prolétariat. Il ne s'embarrassait pas de scrupules timorés et de demi-mesures pour rendre le monde heureux, à leur façon, si ce n'était à la sienne. Il décrétait d'emblée la suppression de toutes les libertés qui pouvaient leur être opposées. La bourgeoisie déchue était privée du droit de réunion, du droit de vote, du droit de presse. « Fort bien, » disait Clérambeau. « À ce compte, elle deviendra le nouveau prolétariat. L'oppression change de place. Ce ne sera que pour un temps. La dernière oppression tuera l'oppression. Oui, toujours la guerre pour le droit et pour la liberté. Toujours la dernière guerre qui doit tuer la guerre. En attendant, elle ne s'en porte que mieux, et le droit, comme la liberté, sont foulés aux pieds. » Il protestait, indigné contre la comparaison. Il ne voyait qu'infamie dans la guerre et dans ceux qui la font. « Pourtant, disait Clérambeau doucement, plusieurs de vous l'ont faite, et presque tous y ont cru. Mais non, ne protestez pas. Le sentiment qui vous y poussait avait aussi sa noblesse. On vous montrait un crime, et vous vous êtes jeté dessus pour l'écraser. Votre ardeur était belle. Seulement vous vous imaginiez qu'il n'y avait qu'un crime, et qu'une fois que le monde en aurait été purgé, il redeviendrait innocent, comme au jour de l'âge d'or. J'ai déjà vu cette étrange naïveté, au temps de l'affaire Dreyfus. Les braves gens de toute l'Europe, j'en étais, semblaient n'avoir jamais entendu dire qu'un innocent eût pu être, jusqu'alors, injustement condamné. Leur vie en fut bouleversée. Ils remuèrent l'univers pour laver cette iniquité. Hélas, quand la lessive fut faite, elle ne le fut même pas. Les blanchisseurs se découragèrent au milieu de la tâche et le blanchit lui-même. Le monde était aussi noir qu'avant. Il semble que l'homme ne puisse pas embrasser l'ensemble de la misère humaine. Il a trop peur de voir l'immensité du mal. Pour n'en être pas accablé, il se fixe un seul point. Il y localise tout le mal du monde et il s'interdit de regarder autour. Tout cela se comprend, c'est humain, mes amis. Mais il faut être plus brave. La vérité, c'est que le mal est partout. Il est chez l'ennemi et il est aussi chez nous. Vous l'avez découvert peu à peu dans notre état. Avec la même passion qui vous faisait incarner en l'ennemi le mal universel, vous allez vous retourner contre vos gouvernements, dont vous voyez les tares. Et si jamais vous reconnaissez que ces tares sont aussi en vous, comme il est à craindre après les révolutions qui s'allument et où les justiciers se retrouveront, à la fin, sans comprendre comment, les mains et le cœur souillés. Vous vous acharnerez contre vous-même avec un sombre désespoir. Grands enfants, quand vous déshabituerez-vous de vouloir l'absolu ? Ils auraient pu lui répondre qu'il faut vouloir l'absolu pour vouloir le réel. La pensée peut s'amuser aux nuances, l'action n'en comporte point. C'est tout un ou tout autre. Que Clérambeau choisit entre eux et leurs adversaires. Pas d'autre choix possible. Oui, Clérambeau le comprenait. Pas d'autre choix possible sur le plan de l'action. Ici, tout est déterminé d'avance. De même que la victoire injuste amène fatalement la revanche qui sera injuste à son tour, de même l'oppression capitaliste amènera la révolution prolétarienne qui sera oppressive à son exemple. C'est une chaîne sans fin. Il y a là une diquée d'airain que reconnaît l'esprit, qu'il peut même honorer comme une loi de l'univers. Mais le cœur ne l'accepte pas. Le cœur refuse de s'y soumettre. Sa mission est de rompre la loi de guerre éternelle. Le pourra-t-il jamais? Qui le sait? En tout cas, il est clair que son espoir, son vouloir, sortent de l'ordre naturel. Sa mission est d'ordre surnaturel et proprement religieux. mais Clérambeau, qui en était pénétré, n'osait encore se l'avouer. Il n'osait pas du moins s'avouer ce mot « religieux », ce mot que les religions, si peu religieuses, ont aujourd'hui discrédité. Clérambeau ne faisait pas encore tout à fait le jour dans sa pensée, ses jeunes amis avaient de bonnes raisons pour ne pas y voir clair. L'eussent-ils vu d'ailleurs, ils ne l'eussent jamais comprise. Ils ne supportaient pas qu'un homme qui condamnait l'état des choses présents comme mauvais et meurtrier se refusât aux moyens les plus énergiques de le supprimer. Ils n'avaient pas tort, de leur point de vue, qui était celui de l'action immédiate. Le champ de l'esprit est plus vaste. Les batailles qu'il livre embrassent un large espace. Il ne les compromet pas en des escarmouches sanglantes. Et même en admettant que les moyens préconisés par ses amis fussent les plus efficaces, Clérambeau n'acceptait pas cet axiome de l'action, que la fin justifie les moyens. Il croyait au contraire que les moyens sont encore plus importants au vrai progrès de la fin. La fin est-il jamais une fin? Mais il s'irritait contre cette pensée trop complexe et diffuse. Elle les entretenait dans une animosité dangereuse qui, depuis 5 ans, s'était levée dans le peuple ouvrier contre les intellectuels. Certes, ceux-ci n'avaient que trop fait pour la mériter. Qu'ils étaient loin, les temps où les hommes de pensée marchaient en tête des révolutions. À présent, ils faisaient bloc avec toutes les forces de réaction. Et même le nombre infime de ceux qui s'étaient tenus à l'écart de la bande, en blâmant ses erreurs, se montraient incapables, comme Clérambeau, de renoncer à leur individualisme, qui les avait sauvés une fois et qui les tenait prisonniers aujourd'hui. Incapable de s'incorporer au mouvement nouveau des foules. De cette constatation faite par les révolutionnaires à déclarer la déchéance des intellectuels, il n'y avait pas loin. L'orgueil de caste ouvrière, qui s'affirmait déjà dans des articles, des discours, en attendant qu'il pût, comme en Russie, se manifester par des actes, prétendait que les intellectuels obéissent servilement aux maîtres prolétaires. Il était remarquable que quelques intellectuels fussent parmi les plus ardents à réclamer cet abaissement de la confrérie. Ils eussent voulu faire croire qu'il n'en était point. Ils l'oubliaient. Moreau ne l'oubliait pas. Il n'en était que plus amer à répudier la classe, dont la tunique de Nessus lui tenait à la peau. Il y apportait une violence extrême. Il montrait maintenant envers Clérambeau des sentiments bizarrement agressifs. Dans la discussion, il l'interrompait, sans politesse, avec une sorte d'aigreur ironique et irritée. On eût dit qu'il cherchât à le blesser. Clérambeau ne s'en offensait point. Il était plein de pitié pour lui, car il savait que Moreau souffrait, et il imaginait l'amertume d'une jeune vie sacrifiée à qui ne peut convenir la nourriture morale, patience, résignation, dont s'accommodent les estomacs de 50 ans. Un soir que Moreau s'était montré particulièrement désagréable, et pourtant s'obstinait à reconduire Clérambeau chez lui, comme s'il ne pouvait se décider à le quitter, taciturne, renfrogné, cheminant à ses côtés, Clérambeau s'arrêta un instant et, lui prenant amicalement le bras, dit avec un sourire « Mon pauvre garçon, ça ne va donc pas ?» Moreau, interloqué, se ressaisit. Il demanda sèchement à quoi l'on pouvait bien voir que ça n'allait pas. « À ce que vous étiez si méchant ce soir, » répondit Clérambeau avec bonhomie. Moreau protesta. « Mais si, vous vous donniez tant de mal pour me faire du mal. »« Oh, un peu, un petit peu seulement. Je sais bien que vous ne voulez pas vraiment. Et quand un homme comme vous cherche à faire souffrir, c'est qu'il souffre, pas vrai ?»« Excusez-moi, » dit Moreau, « c'est vrai. Je souffrais de voir que vous ne croyez pas à notre action. »« Et vous ?» demanda Clérambeau. Moreau ne comprenait pas. « Et vous ?» répéta Clérambeau. « Vous y croyez ?»«
Si j'y crois ?»
s'écria Moreau, indigné. « Mais non, » dit doucement Clérambeau. Moreau fut sur le point de s'emporter, puis dit en faiblissant « Mais si !» Clérambeau avait repris sa marche. « Bon, » dit-il, « cela vous regarde ? Vous savez mieux que moi ce que vous pensez ?» Ils marchèrent sans parler. Après quelques minutes, Moreau, saisissant Clérambeau par le bras, lui dit « Comment avez-vous pu savoir ?» Sa résistance était brisée. Il confessa le désespoir caché sous sa volonté agressive de croire et d'agir. Il était rongé de pessimisme. Conséquence naturelle d'un idéalisme excessif dont les illusions avaient été cruellement mortifiées. Les âmes religieuses d'autrefois étaient bien tranquilles. Elles plaçaient le royaume de Dieu dans un au-delà qu'aucun événement ne pouvait atteindre. Mais celle d'aujourd'hui, qui l'installe sur la terre, dans l'œuvre de la raison humaine et de l'amour, quand la vie soufflette leurs rêves, la vie leur fait horreur. Il y avait des jours où Moreau se serait ouvert les veines. L'humanité lui semblait un fruit qui pourrissait. Il voyait avec désespoir la défaite, la faillite, le ratage, inscrit dès l'origine dans les destinées de l'espèce, le ver pondu dans la fleur. Et il ne pouvait supporter l'idée de cette absurde et tragique destinée à laquelle les hommes ne se déroberont jamais. Comme Clérambeau, il sentait, pour l'avoir dans les veines, le poison de l'intelligence. Mais au lieu que Clérambeau, qui avait surmonté la crise, ne reconnaissait le danger que dans le dérèglement de l'esprit et non dans son essence, Moreau s'affolait à l'idée que le poison était constitutif de l'intelligence. Son imagination exaspérée ne savait qu'inventer afin de le torturer. Elle lui montrait la pensée comme une maladie qui marque l'espèce humaine de sa tare indélébile. Il se représentait d'avance les cataclysmes où elle menait. Déjà, n'assistait-on pas au spectacle de la raison, titubant d'orgueil, devant les forces que la science lui livrait, ces démons de la nature que lui asservissaient les formules magiques conquises par la chimie, et, dans l'égarement de cette puissance trop soudaine, la tournant au suicide? Et cependant, la jeunesse de Moreau se refusait à rester sous le poids de cette erreur. Agir à tout prix, pour ne pas rester seul avec elle. Ne nous empêchez pas d'agir, excitez-nous plutôt. « Mon ami, » dit Clérambeau, « on ne doit pousser les autres à l'action dangereuse que si l'on agit soi-même. Je ne puis souffrir les excitateurs, même sincères, qui poussent les autres au martyre sans donner l'exemple. Il n'est qu'un seul type de révolutionnaire vraiment sacré, c'est le crucifié. Mais très peu d'hommes sont faits pour l'auréole de la croix. Le mal est qu'on s'assigne toujours des devoirs surhumains, inhumains. Il est malsain pour le commun des hommes de s'évertuer à l'Übermenschheit. Et ce ne peut être pour eux qu'une source de souffrance inutile. Mais chaque homme peut aspirer à rayonner dans son petit cercle la lumière intime, l'ordre, la paix, la bonté, et c'est là le bonheur. Ce n'est pas assez pour moi, dit Moreau. Cela laisse trop de place au doute. Il nous faut tout ou rien. Oui, votre révolution ne laisse plus de place au doute. Ô cœurs brûlants et durs, cerveaux géométriques, tout ou rien, plus de nuances. et qu'est la vie sans nuance. C'est là sa beauté même, c'est aussi sa bonté. Beauté fragile, frêle bonté, partout faiblesse, il faut l'aimer. Aimer, aider, au jour les jours et pas à pas. Le monde ne se transforme ni par des coups de force, ni par des coups de grâce, tout entier, tout d'un coup. Mais seconde par seconde, il mue dans l'infini, et le plus humble qui le sent prend part à l'infini. Patience, une seule injustice effacée ne délivre pas l'humanité, mais elle éclaire une journée. D'autres viendront, d'autres lumières, d'autres journées. Chacune apporte son soleil. Voudriez-vous l'arrêter ?
Nous ne pouvons attendre, dit Moreau. Nous n'avons pas le temps.
La journée que nous vivons pose des problèmes dévorants. Il nous faut les résoudre, sur le champ. Si nous n'en sommes pas les maîtres, nous en serons les victimes. Nous, pas seulement nos personnes, elles sont déjà victimes. Mais tout ce que nous aimons, ce qui nous retient encore à la vie, l'espoir en l'avenir, le salut de l'humanité. Voyez tout ce qui nous presse, les angoissantes questions pour ceux qui viendront demain, pour ceux qui ont des enfants. Cette guerre n'est pas terminée, et il est trop évident qu'elle sème déjà par ses crimes et par ses mensonges des guerres nouvelles, prochaines. Pourquoi élève-t-on ses enfants? Pourquoi grandiront-ils? Est-ce pour être offert à des tueries semblables? Quelle solution possible? On en a vite fait le tour. Quitter ces nations enragées, ce vieux continent fou, émigrer? Où? Reste-t-il sur le globe 50 arpents de terre où puissent s'abriter les libres honnêtes gens? Prendre parti, vous voyez bien qu'il faut se décider, ou pour la nation, ou pour la révolution. Sinon, que reste-t-il? La non-résistance? Est-ce là ce que vous voulez? Elle ne peut avoir de sens que si l'on a la foi, une foi religieuse. Autrement, elle est une résignation de mouton qu'on égorge. Mais le plus grand nombre, hélas, ne se décide pour rien, aime mieux ne pas penser, détourne leurs yeux de l'avenir, se leurre que plus jamais ne recommencera ce qu'ils ont vu et souffert. C'est pourquoi nous devons décider à leur place et, de gré ou de force, leur faire sauter le pas, les sauver malgré eux. La révolution, c'est quelques hommes qui veulent pour toute l'humanité.
Je n'aimerais pas beaucoup, dit Clérambeau, qu'un autre voulût pour moi, et il ne me plairait pas non plus de vouloir pour un autre.
Je préférerais aider chacun à être libre et à ne pas gêner la liberté des autres.
Mais je sais que je demande trop.
Vous demandez l'impossible, dit Moreau. Quand on commence à vouloir, on ne s'arrête plus en chemin. Il n'y a que deux sortes d'hommes, ceux qui veulent trop, Lénine et tous les grands, ils sont bien deux douzaines dans toute l'histoire des siècles, et ceux qui veulent trop peu, ceux qui ne savent rien vouloir, c'est tous les autres, c'est nous, c'est moi-même. Vous l'avez trop bien vu, je ne veux que par désespoir.
Pourquoi désespérer? Dit Clérambeau.
La destinée de l'homme se fait chaque jour, et nul ne la connaît. Elle est ce que nous sommes. Être découragé, c'est la décourager.
Mais Moreau disait, avec abattement, « Nous n'aurons pas la force, nous n'aurons pas la force. »
Croyez-vous que je ne vois pas quelles chances infimes de succès a, chez nous, la révolution dans les conditions actuelles, après les destructions, les anéantissements économiques, la démoralisation, la lassitude mortelle causée par ces 4 ans de guerre?
Et il avoua, « J'ai menti. » La première fois que je vous ai vu, quand je prétendais que tous mes camarades sentaient comme nous la souffrance, la révolte.
Gillot vous l'a bien dit, nous ne sommes qu'un petit nombre. Les autres, pour la plupart, bonnes gens, mais faibles, faibles. Ils jugent assez bien des choses, mais plutôt que de se heurter la tête contre un mur, ils aiment mieux n'y pas songer, ils se vengent par le rire.
Ah, ce rire français, notre richesse et notre ruine. Qu'il est beau, mais quelle proie il offre aux oppresseurs.
Qu'il cante, pourvu qu'il paye, disait cet Italien. Qu'il rit, pourvu qu'il meure.
Et puis, cette terrible accoutumance dont vous parlez, Gillot, à quelques conditions, absurdes ou pénibles, qu'on veuille astreindre l'homme, pourvu qu'elle se prolonge et qu'il en soit le troupeau, il s'habitue à tout. Il s'habitue au chaud, au froid, à la mort et au crime. Toute la force de résistance, on l'use à s'adapter. Et après, on se tasse dans un coin, sans bouger, de peur que, si on changeait, on ne réveillât la souffrance engourdie. Il y a une telle fatigue qui pèse sur nous tous. Quand les armées reviendront, elles n'auront qu'un désir, oublier et dormir. Et l'agneau enragé, qui parle de tout chambardé. L'agneau, je l'ai connu, depuis le commencement de la guerre. Je l'ai vu tour à tour cocardier, revanchard, annexionniste, internationaliste, socialiste, anarchiste, bolcheviste, je m'en fichiste. Il finira réactionnaire. On l'enverra se faire percer le flanc, rataplan, par l'ennemi qu'il plaira demain à nos gouvernements de choisir, parmi nos ennemis ou nos amis d'aujourd'hui. Le peuple est de notre opinion ? Oui, et de l'opinion des autres. Le peuple est de toutes les opinions, à tour de rôle.
Vous êtes le révolutionnaire par découragement, dit en riant Clérambeau. Il y en a beaucoup parmi nous.
Gillot, pourtant, est sorti de la guerre plus optimiste qu'avant.
Gillot peut oublier, dit amèrement Moreau. Je ne lui envie pas son bonheur.
Il ne faut pas le lui troubler, dit Clérambeau. Aidez Gillot, il a besoin de vous.
De moi ? Disait Moreau, incrédule.
Il a besoin, pour être fort, que l'on croie en sa force. Croyez.
Croit-on par volonté ?
Vous en savez quelque chose, non, n'est-ce pas ?
Mais on croit par amour.
Par amour de ceux qui croient ?
Est-ce que ce n'est pas toujours par amour, et seulement par amour, que l'on croit ?
Moreau était touché. Sa jeunesse intellectuelle, brûlante et desséchée par la soif de connaître, souffrait comme les meilleurs de sa classe bourgeoise du manque d'affection fraternelle. La communion humaine est bannie de l'éducation d'aujourd'hui. Ce sentiment vital, constamment refoulé, s'était avec méfiance réveillé, dans les tranchées, ces fossés de chair vivante, souffrante, empilés ensemble. Mais on craignait de s'y livrer. L'endurcissement commun, la peur de la sentimentalité, l'ironie, engainaient le cœur. Depuis la maladie de Moreau, l'enveloppe d'orgueil était moins résistante. Clérambeau n'eut pas de peine à la briser. Le bienfait de cet homme était qu'à son contact, les amours-propres fondaient, car il n'en avait point. Et l'on se montrait à lui, comme il se montrait à vous, avec sa vraie nature, ses faiblesses et ses cris, qu'une fausse fierté enseigne à étouffer. Moreau, qui avait reconnu au front, sans trop se l'avouer, la supériorité d'homme d'un rang social inférieur, ses compagnons ou ses gradés, éprouvaient pour Gillot une sympathie à laquelle il était heureux que Clérambeau fît appel. Clérambeau lui formulait son secret désir qu'un autre eût besoin de lui. Et Clérambeau soufflait à Gillot d'être optimiste pour deux, de soutenir Moreau. Ainsi, tous deux puisèrent une aide dans le besoin d'aider l'autre. Le grand principe de vie, qui donne, il l'a. En quelque temps qu'on soit, quels que soient les désastres, rien n'est perdu. Tant que reste dans l'âme de la race une étincelle de virile amitié. Réveillez-la, rapprochez ces cœurs isolés qui ont froid. Qu'un des fruits de cette guerre des nations soit du moins la fusion de l'élite des classes, l'union des deux jeunesses, le monde du travail manuel et celui de la pensée, qui doivent, en se complétant, renouveler l'avenir.
si le moyen de s'unir n'est pas que l'un des deux veuille dominer l'autre, il ne l'est pas davantage qu'il veuille être dominé par l'autre. C'est à quoi cependant les jeunes intellectuels de ces groupes révolutionnaires mettaient un étrange amour-propre. Ils rabrouaient doctrinalement Clérambeau, au nom de ce principe que l'intelligence doit être mise au service du prolétariat. Dinen, Dinen, le mot final de l'orgueilleux Wagner. C'est aussi le mot de plus d'un orgueil déçu. Ou ils veulent être maîtres, ou être serviteurs. Le plus rare en ce monde, c'est, pensait Clérambeau, de trouver de braves gens qui veuillent, bonnement, être mes égaux. S'il faut y renoncer, tyrannie pour tyrannie, je préfère encore celles qui tenaient les corps d'Ésope et d'Épictète esclaves, mais libres leurs esprits, à celles qui nous promet la liberté matérielle et l'esclavage d'âme. Cette intolérance lui fit sentir son incapacité à se lier à un parti, quel qu'il fût. Entre deux partis opposés, la révolution et la guerre, il pouvait affirmer, il le faisait franchement, ses préférences pour l'un, la révolution, car elle seule offrait un espoir de renouveau, et l'autre tuait l'avenir. Mais préférer un parti ne signifie pas lui aliéner son indépendance d'esprit. C'est l'erreur et l'abus des démocraties de vouloir que tous aient les mêmes devoirs et s'attellent aux mêmes tâches. Dans une communauté en marche, les tâches sont multiples. Tandis que le gros de l'armée combat pour conquérir un progrès immédiat, d'autres doivent maintenir les valeurs éternelles au-dessus des vainqueurs de demain comme d'hier, car elles les dépassent tous en les éclairant tous. Leur lumière se projette sur la route, bien au-delà des fumées du combat. Clérambeau s'était laissé trop longtemps aveuglé par ces fumées pour se replonger dans celle d'une nouvelle bataille. Mais en ce monde d'aveugles, la prétention de voir semble une inconvenance et peut-être un délit. Il venait de constater cette ironique vérité dans un entretien où ses petits Saint-Justes lui avaient fait la leçon en le comparant assez impertinemment à l'astrologue qui se laissa choir au fond d'un puits. On lui dit « Pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête ?» Et comme il n'était pas dénué d'humour, il trouvait quelque justesse à la comparaison. Oui, il appartenait un peu à la confrérie. De ceux qui baillent aux chimères, cependant qu'ils sont en danger, soit pour eux, soit pour leurs affaires. Mais quoi, votre République pense-t-elle se passer d'astronome, comme l'autre, la première, n'avait pas besoin de chimiste? Ou prétendez-vous les mobiliser? C'est alors que nous aurons chance de choir, de compagnie, tous au fond du puits. C'est ce que vous voulez? Et je ne dis pas non, s'il ne s'agissait que de partager votre sort. Mais partagez vos haines. Vous avez bien les vôtres, lui dit un de ces jeunes gens. Et juste à ce moment, un autre qui entrait, un journal à la main, cria à Clérambeau. Eh bien, je vous félicite, l'ennemi Bertin est mort. L'irascible journaliste venait d'être enlevé en quelques heures par une pneumonie infectieuse. Depuis 6 mois, il ne cessait de poursuivre avec rage tous ceux qu'il soupçonnait de chercher, de vouloir ou même de désirer la paix. Car, de degré en degré, il en était venu à regarder comme sacré, non plus même la patrie, mais la guerre. Parmi ceux qui étaient en butte à sa méchanceté, Clérambeau bénéficiait d'un traitement de faveur. Bertin ne pardonnait pas à celui qui l'avait attaqué d'oser lui tenir tête. Les ripostes de Clérambeau l'avaient d'abord exaspéré. Le silence dédaigneux que Clérambeau opposa ensuite à ses invectives lui fit perdre toute mesure. La bouffissure de sa vanité hypertrophiée en ressentit une blessure que seule pouvait venger l'écrasement total, définitif de l'adversaire. Clérambeau lui apparut non seulement comme un ennemi personnel, mais comme un ennemi public. Et il s'acharna à en trouver les preuves. Il fit de lui le centre d'un grand complot pacifiste, dont le ridicule eût sauté aux yeux en d'autres temps. Mais en ce temps-là, on n'avait plus Dieu. Dans les dernières semaines, la polémique de Bertin avait dépassé en verve et en violence tout ce qu'il avait encore écrit. Elle était une menace pour tous ceux qui étaient convaincus ou suspects de tremper dans l'hérésie de la paix. Aussi, la nouvelle de sa mort fut-elle accueillie, dans la petite réunion, avec une satisfaction bruyante. Et l'on fit son oraison funèbre en un style qui ne le cédait en énergie à aucun des maîtres du genre. Clérambeau entendait à peine, plongé dans la lecture du journal. Un de ceux qui l'entouraient lui tapa l'épaule et lui dit
« Eh bien, cela vous fait plaisir ?»
Clérambeau sursauta. « Plaisir ? » dit-il.
« Plaisir ? »
répéta-t-il. Il prit son chapeau et partit. Il se retrouva dans la nuit de la rue, dont les lumières étaient éteintes à cause d'une alerte aérienne. Il revoyait dans sa pensée un fin visage d'adolescent, au teint d'une pâleur chaude, aux beaux yeux bruns caressants, les cheveux bouclés, la bouche mobile et rieuse, le timbre de voix chantant. Bertin, tel qu'il était, à leur première rencontre, quand ils avaient l'un et l'autre 17 ans. Leur longue veillée ensemble, les chères confidences, les discussions, les rêves. En ce temps, Bertin aussi rêvait. Même son sens pratique, sa précoce ironie, ne le défendait pas des espoirs impossibles, des généreux projets de rénovation humaine. Ah, que l'avenir était beau à leur regard d'enfant. Et comme, à ces visions, en des minutes ravies, leurs deux cœurs se fondaient d'amoureuses amitiés. Et voilà ce que la vie avait fait de tous deux. Cette lutte haineuse, cet acharnement insensé de Bertin a piétiné ses rêves de jadis et l'ami qui les gardait. Et lui, Clérambeau, qui s'était laissé prendre au même courant meurtrier, cherchant à rendre coup pour coup, à faire saigner l'adversaire. Et qui, au premier moment, en apprenant la mort de l'ancien ami, il eut horreur de se l'avouer, en avait éprouvé un sentiment de soulagement. Mais qu'est-ce qui nous tient donc? Quel vertige de méchanceté qui se retourne contre nous? Absorbé dans ses pensées, il s'était égaré. Il s'aperçut qu'il allait dans la direction opposée à sa maison. Dans le ciel sillonné par les antennes des projecteurs, on entendait d'énormes explosions. Les zeppelins sur la ville, les grondements d'efforts, un combat aérien. Ces peuples enragés qui se déchirent, pour quel but? Pour en arriver tous où en était Bertin? Au néant qui attendait également tous ces hommes et toutes ces patries? Et ces autres, révoltés, qui discutent d'autres violences, d'autres idoles assassines à opposer aux premières, de nouveaux dieux de carnage, que l'homme se forge à lui-même pour tâcher d'ennoblir ses instincts malfaisants. Ah Dieu, comment ne sentent-ils pas l'imbécilité de leurs furieuses agitations, en face du gouffre où s'abîme, en chaque agonisant, l'entière humanité? Comment des millions d'êtres, qui n'ont plus qu'un instant à vivre, s'acharnent-ils à le rendre infernal par leurs atroces et ridicules dissentiments d'idées? Des gueux qui se massacrent pour une poignée de sous qu'on leur jette et qui sont faux. Tous, ils sont des victimes, également condamnés. Et au lieu de s'unir, ils se combattent entre eux. Malheureux, donnons-nous le baiser de la paix. Sur chaque front qui passe, je vois la sueur de l'agonie. Mais un flot humain qu'il croisa, hommes et femmes, criaient, hurlaient de joie. « Il tombe, il y en a un qui tombe, il tombe, les cochons brûlent !» Et les oiseaux de proie, ceux qui planaient là-haut, jubilaient dans leur cœur à chaque poignée de mort qu'ils semaient dans la ville. Comme des gladiateurs qui s'enferrent dans l'arène pour la satisfaction de quel Néron invisible. Oh, mes pauvres compagnons de chaîne !»